RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC et RMC Story, la radio et la télé, avec autour de la table aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, le prof de philo Jean-Loup Bonamy et la professeure de français Fatima Aïd-Bounois, et notre invité qui s'est installé.
RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules aujourd'hui, le lieutenant-colonel Franck Maillard, le sapeur-pompier. Bonjour mon colonel.
Bonjour.
Merci d'être là, parce qu'on voudrait en savoir plus sur ce qui se passe en ce moment du côté de la forêt de Fontainebleau, en région parisienne, avec un feu très spectaculaire, inédit. Rendez-vous compte, on voit des canadairs sur la Seine. C'est inimaginable.
Des canadairs et des dash, hein, venir sur la région parisienne, c'était... C'est improbable. Pour autant, on s'y était préparé, parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, on avait anticipé cette possibilité et donc on avait défini une zone pour ces fameux écopages sur la Seine. Donc, on y était quand même un peu préparé.
Oui, alors ce qui se passe quand même est d'une ampleur inédite. Tout d'abord, le feu n'est toujours pas maîtrisé, il n'est pas fixé.
Ah, il est loin d'être maîtrisé. Hein. Il y a encore des flancs, parce que le feu se développe sur différents flancs, flanc droit, flanc gauche, et sur au moins l'un des flancs, la situation n'est pas maîtrisée. Et il est encore en train de se développer, effectivement.
Alors c'est vrai que l'un des problèmes, c'est l'absence de chemin d'accès. Les pompiers ont du mal à évoluer.
Complètement, c'est dans les massifs du sud de la France, il y a de la DFCI, c'est la défense de la forêt contre l'incendie, donc ce sont des chemins qui sont prévus pour le gabarit de nos camions-citernes feux de forêt. Là, sur la forêt de Fontainebleau, c'est plutôt des balades équestres, c'est plutôt des balades pédestres.
Il y a les rochers aussi, les fameux rochers.
Il y a les rochers, oui. C'est là, on est sur le massif des 25 bosses, hein, donc très escarpé, très difficile pour nos sapeurs-pompiers. Et effectivement, pour y engager des camions et du personnel, ils vont passer de nombreuses heures délicates.
Parce qu'on n'avait jamais imaginé avoir à faire face à un tel incendie.
Il y a quelques jours, c'est la Sologne qui brûlait. On a eu dans le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Sologne qui a brûlé. On s'imaginait pas non plus qu'elle allait brûler un jour. Et quand on a vu arriver un dash dans le 18, dans le Cher, effectivement, ouais, c'est la première fois.
Incroyable. Combien de pompiers engagés?
Alors là, actuellement, à peu près 400 à 500 pompiers. Et puis, paradoxalement, ce sont nos collègues du sud de la France que l'on allait renforcer tous les ans, qui viennent cette fois-ci nous renforcer. C'est les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, c'est le 84 qui viennent également. Donc une colonne complète qui monte sur Paris.
Tout à l'heure, Laurent Nunez, qui était sur place, le ministre de l'Intérieur, parlait d'un feu d'origine volontaire. Ça veut dire quoi?
Alors en fait, vous savez que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, hein, malheureusement. Soit le travail des agriculteurs, soit des mégots, donc là en l'occurrence, par rapport à la simultanéité des feux hier en cette fin d'après-midi, le procureur mène effectivement, il y a une enquête qui est en cours, hein, mais c'est bizarre.
Plusieurs départs de feux.
Oui.
Qui laisse à penser que quelqu'un a allumé volontairement ses feux à divers endroits.
Alors la proximité immédiate avec les autoroutes, hein, la 6 à 5, laisse supposer, comme on le voit souvent, un mégot négligemment jeté.
On lance au bord des routes, ouais.
Évidemment. Et d'autres feux dans le massif qui semblent plus suspects, effectivement.
Mais ce qui fascine, c'est quoi? C'est la pyromanie? Quel est l'intérêt de mettre le feu à Fontainebleau?
Alors quand c'est les mégots...
Non, pas les mégots, mais c'est accidentel. Mais là, vous dites si c'est volontaire.
C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout Fontainebleau.
Fontainebleau-phobie.
C'est quelqu'un qui... Voilà.
Mais vous savez, pour beaucoup de personnes viennent assister à nos interventions. Ils sont derrière nous pour voir les flammes.
Oui, il y a une fascination.
Regardez les images derrière vous, c'est impressionnant.
Donc il y a la fascination du feu.
Probablement.
Il y a même eu des pompiers pyromanes dans l'histoire.
Oui, il y en a eu, malheureusement, on le déplore. Mais on a 250 000 pompiers, oui, chez nous, donc on a un peu tout le panel de la population française et on doit avoir des pyromanes, malheureusement.
Question sur les moyens, parce que tout à l'heure, on s'est interrogé Jean-Loup.
Mais quels sont les moyens que vous aimeriez avoir en plus, dont vous auriez besoin en plus?
Là, actuellement, on va faire un point après cette saison. On a des moyens aériens qui sont prépositionnés sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, malheureusement, notre flotte, qui était composée d'une douzaine de Canadairs et autres Dash, il doit y en avoir huit, étaient tous sur le pourtour méditerranéen, là, avec les feux qui se développent dans toute la France. Bah, cette répartition fait que on a un avion par-ci, un avion par-là, et quand il y a un feu, on n'a plus la même force de frappe qu'on ne l'avait dans le sud
donc
de la France.
Donc il faudrait plus de Canadairs avec une répartition géographique différente.
Alors, je suis pas persuadé que ce soit le Canadair le plus adapté. sur le Loiret, hier, ce sont des hélicoptères qui ont fait un travail remarquable, avec une espèce de petite piscine là qui délivre à chaque fois 1000 litres d'eau sur des zones très compliquées d'accès, comme à la montagne ou comme c'est le cas aussi sur Fontainebleau. Et ça peut être tout aussi efficace.
C'est la particularité française d'ailleurs. On n'a pas que des Canadairs aussi.
Alors on loue une flotte. Hein. Alors on a les Dash hein, qui ont une grosse capacité. Souvent eux déversent du retardant. Vous savez ce produit rouge qui stoppe normalement les flammes. Et puis on loue des hélicoptères bombardiers d'eau. Donc qui sont aussi répartis judicieusement et qui sont également une force de frappe importante.
Mais dites-moi, ce chiffre est quand même impressionnant, celui qui a été donné justement par Nunez tout à l'heure. 32 000 hectares parcourus depuis le début de l'année en France.
On a connu des années aussi compliquées, hein, mais cette année, elle est vraiment...
Et on n'est que le 12 juillet, enfin le 13 juillet, c'est-à-dire
oui,
que...
Oui, et quand vous rajoutez en plus la canicule, parce que au-delà des incendies, nos pompiers sont également en première ligne pour la canicule, parce qu'on a des malaises, on a des personnes qui font des malaises sur la voie publique et chez elles.
Et donc, des rêves partis aussi.
Oui, j'ai vu ça, oui, dans l'ouest de la France.
Ça vous aide pas quand même.
Ben, pour l'instant, ça se passe bien. Pour autant, oui, c'est rajouter un risque. Et...
Non, mais pardon, je dis ça parce qu'on a annulé, par exemple, les bals de pompiers à Paris.
Oui, c'est une première. Hein. Je n'ai jamais connu ça. C'est assez exceptionnel.
Moi, pardon, ça m'a
comment
choqué.
Comment vont faire les gens pour pécho?
Voilà, déjà, comment sujet, on va faire Charles pour pécho? Mais non, mais ça m'a choqué parce
les
que
gens,
je
dis, bah moi,
c'est quand même. C'est une fête populaire, les bals de pompiers. C'est gratuit. Et puis, c'est quelque chose, c'est une tradition française. Et on supprime ça alors que c'est très encadré dans des casernes, alors qu'on laisse une rêve partie se dérouler. Je trouve que les messages, quand même, sont envoyés. Qu'est-ce qu'on craignait avec le bal des pompiers?
Alors, c'était en partie lié avec la consommation d'alcool sur la voie publique.
Oui.
Même si il avait été. Prévu de ne pas délivrer d'alcool dans les balles, mais après c'est une décision.
Je pense qu'il fait trop chaud pour boire, c'est ça.
Je pense qu'aussi à un moment donné on est en vigilance rouge. Vous savez quand on est en vigilance rouge météo orage, les gens ne sortent pas. Là on doit prendre des précautions, éviter que les gens ne fassent des malaises. Je pense qu'on a aussi un rôle.
Ils ont souvent plus chaud. Sincèrement.
Vous avez raison. Chez eux.
Parce que là, les balles de pompiers, c'est le soir.
C'est le soir et dehors, oui, dans la cour de la caserne.
À la limite, dehors, dans la cour de caserne, à 22h, 23h, on est peut-être mieux que chez soi. Enfin bon, ça m'a surpris comme décision.
Et puis, il faut aussi penser qu'ils sont amenés à intervenir et faut préserver les... Là, actuellement, on a beaucoup de sapeurs-pompiers de Paris qui sont sur le feu de Fontainebleau.
C'est un bon argument.
Et à ce titre, c'est aussi pour qu'ils puissent se reposer.
Fatima et Benoît. Alors Fatima, qui n'aime pas les pompiers, elle nous l'a dit tout à l'heure. Elle dit, s'il y a bien une profession que je déteste, c'est les pompiers.
Comme souvent, c'est le cas.
C'est l'inverse. Donc d'abord, merci, bravo. Et l'inverse que je disais à Olivier, c'est que j'aime beaucoup les...
C'est vrai.
Les pompiers, j'admire les pompiers.
Que ses enfants soient pompiers.
Ah. Non, mais oui, j'ai deux garçons. La dernière fois, je leur disais, et vous aimeriez être pompier. C'est quand même, je trouve qu'il y a une grandeur dans cette mission. Et je trouve ça très beau. Et je trouve qu'on parle très peu des pompiers, ou uniquement quand il y a des incendies ça. Regardez, on vous invite.
Majoritairement, ce sont des volontaires, les sapeurs-pompiers.
Mais c'est vraiment, je trouve qu'il y a une grandeur d'âme derrière ça. Et donc, moi, vous savez, je suis très sensible à la grandeur des petits, ceux qu'on invisibilise et qui font. La France tient sur les infirmières, les aides-soignantes, les pompiers, les policiers, les profs, ceux qui sont sur le terrain au quotidien et où leur terrain, c'est ça, c'est de maintenir, c'est de guérir, c'est de protéger, de soigner au service des autres. Donc, vous avez vraiment toute mon admiration.
Merci.
Ma question, est-ce qu'il y a moins d'abus? C'est-à-dire, pendant tout un moment, on disait que les gens appelaient les pompiers un peu pour rien. Qu'il y avait des abus dans le fait d'appeler, non pas pour des incendies, mais pour un chat, un problème secondaire. Est-ce que vous avez constaté que les gens sont plus responsables, au moins en ce moment, ou pas du tout?
Alors, en fait, avant, il y avait la gratuité de toutes les interventions des sapeurs-pompiers. On a rendu certaines interventions payantes, je pense notamment aux destructions de nids de guêpes, nids de frelons, les dégagements des personnes coincées dans les ascenseurs. Donc, ce qui fait qu'on est moins sollicité, mais on est souvent là en dernier recours, en fait. Hein, quand il n'y a pas de solution, une porte est claquée, il y a l'enfant à l'intérieur de l'appartement, ben le serrurier va venir au bout de 2-3 heures, donc ben, c'est les pompiers et on sera là dans les 10 minutes avec la grande échelle et on va ouvrir la porte. Donc c'est vrai que aujourd'hui on claque des doigts et les pompiers sont là. Donc mais les mentalités ont changé. D'accord. On ne nous appelle plus pour les mêmes futilités que ce qu'il y avait il y a encore quelques années. Donc ça s'est arrangé.
Quand, et vous avez vu ce qui a permis de changer les mentalités, c'est le fait de rendre payant. C'est quoi, ça fait à peu près combien de temps? Une dizaine d'années que ça a commencé à changer?
Ah, ça fait une dizaine d'années, oui. Alors, le fait que ce soit payant, et puis après, au niveau du centre de traitement de l'alerte, on sélectionne aussi, hein, on essaye d'être plus attentif à la nature de l'appel. C'est le cas pour les interventions que l'on qualifie de diverses, hein, interventions particulières, mais c'est également le cas pour le secours à personne. On est plusieurs sur le marché à intervenir, hein, pour le secours à personne. Il y a les ambulances privées, il y a les médecins, il y a les pompiers. Donc là, c'est pareil. Avant, pour le moindre problème à domicile, la douleur à la cheville, le mal de ventre, c'était les pompiers. Maintenant, c'est mieux filtré avec des centrales 18, 15, 112, où là, on filtre les appels et on envoie le secours le plus adapté.
C'est bien, donc ça fonctionne mieux.
Ça fonctionne mieux, oui, beaucoup mieux.
Donc là, on est sur ce feu de Fontainebleau, mais il y a des feux, je regardais la carte, d'ailleurs on peut les suivre sur Internet, hein, en temps réel, les incendies. Il y en a un peu partout en France. On parle beaucoup de Fontainebleau, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas médiatisés, pas seulement dans le sud. Comment on fait pour répartir toutes les forces en présence?
Alors, n'oublions pas qu'on a deux feux majeurs dans la Drôme et puis dans les Pays-Bas, hein,
qui sont toujours pas finis.
Hein.
Pas terminé.
On a eu un feu important en Loire-Atlantique. Ça brûle également dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Enfin, toute la France est couverte. Donc, on a pour les moyens, comme pour les moyens terrestres, comme pour les moyens aériens, c'est une décision qui est prise au ministère de l'Intérieur de déplacer soit des moyens terrestres vers des secteurs les plus adaptés où ils vont pouvoir, à proximité d'un nœud autoroutier, converger vers des départements qui sont en danger. Et puis on a sur Nîmes notre centre national de coordination des moyens aériens. Et chaque jour, on positionne les engins un peu partout en France, à Châteauroux, à Angers, pour avoir un moyen le plus adapté rapidement.
Question de Charles.
Non, là, à Fontainebleau, c'est quel pourcentage de la forêt qui a brûlé ou qui va brûler selon ce que vous pouvez estimer?
Ben, là, ce matin, on était à 5-7% de la forêt, de la surface de la forêt, ce qui est quand même énorme. Le feu continue à se développer. On devrait, je pense, atteindre les 1000 hectares. Il y a encore une centaine d'hectares qui sont menacés et sur lesquels on n'a pas forcément encore pu engager des moyens terrestres.
Le feu va durer plusieurs jours?
Ah, largement, oui. On est parti sur au moins une semaine.
Au moins une semaine.
Alors, attention,
de la forêt va disparaître?
Alors là, j'en ai aucune idée parce que ça, c'est grâce aux actions simultanées des pompiers sur le terrain et les moyens aériens. Donc, on va tout faire pour le limiter au maximum. Mais entre l'extinction, le fait que le feu soit fixé jusqu'à ce que on ait des actions pour éviter que les petites fumerolles ne puissent repartir, redéclencher l'incendie. Ouais, on est sur une dynamique à une semaine, ouais, au moins.
Ah oui, on sait
pendant
déjà.
Pendant une semaine, il y aura de la fumée. Pendant une semaine, il y aura de la fumée sur Fontainebleau.
Et ensuite, on surveille pendant combien de temps un feu qu'on a maîtrisé?
Alors après, c'est le rôle du commandant des opérations de secours d'effectuer des reconnaissances. Maintenant, on a les drones. Alors c'est plus rapide pour avoir une vision globale avec des dispositifs infrarouges. Une fois qu'il n'y a plus de fumerolles, on désengage progressivement le dispositif et il risque d'y retourner régulièrement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de départ de feu. Hein. Ça, c'est clair, on y est pour au moins une semaine.
Ouais. Là, il y a le vent aussi.
Oui, qui joue pas en notre faveur.
Qui est assez important, hein, notamment en région parisienne, ça aide pas.
D'ailleurs, pour la petite histoire, hier soir, juste après le départ de feu, les DASH sont venus sur le secteur et ont mis cette barrière de retardant là pour stopper le front de flamme à proximité de maisons. Et pour autant, avec le vent, et le feu génère aussi un vent, génère son propre vent. Et on a eu ce qu'on appelle une saute de feu jusqu'à 400 mètres. Donc c'est passé au-dessus de la barrière de retardant et 400 mètres plus loin, ça repartait. Donc parfois, on peut être désemparé parce qu'on est survolé par ces débris incandescents qui vous reprennent derrière et du coup, il faut remettre en place le dispositif. Ça, c'est compliqué.
Vous parlez des maisons, il y a beaucoup de personnes qui ont été évacuées.
Eh ben écoutez, j'avais le bilan de à peu près 1000 personnes évacuées de chez elles dans des salles communales. Donc là, les maires ont mis en place leur plan communal de sauvegarde avec des...
À quel moment elles pourront retourner chez elles? Quel est le scénario possible?
Bah là, en fonction des risques de reprise. Là, actuellement, les axes sont bloqués pour faciliter le travail des pompiers, pour que les camions puissent circuler librement. Donc là, elles vont rester, à mon avis, un jour ou deux, peut-être. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est une décision du commandant des opérations de secours qui décidera du fait que la maison ne risque plus rien.
On voilà. peut refuser de quitter son domicile. On entend toujours dans les reportages des gens qui disent ah non, moi je préfère rester là pour sauver ma maison. J'imagine que ça doit arriver souvent. Ça.
J'ai plein d'exemples en tête. Dans les PO, encore récemment, les pompiers retournaient sur place pour se préoccuper des gens qui étaient restés. Alors vous savez qu'on est quand même protégé dans sa maison, hein, sauf si on est sur un habitat en plastique, un bungalow où là on risque d'y rester. Mais quand on a une maison en dur, en fait, au lieu de fuir et d'avoir des drames comme on peut l'avoir en Espagne, parfois il vaut mieux rester dans sa maison. Une fois que le feu est passé, en fait, on est protégé.
Malgré les fumées.
C'est la stratégie que l'on met en place dans des points sensibles, dans les feux à forte dynamique.
Parfois, il faut mieux rester chez soi. C'est de prendre la route et
faire des plans. C'est sur ordre, en fait. Là, quand les services publics, les forces vous disent de partir, c'est qu'ils ont estimé que c'était dangereux. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Parfois, on n'a pas suffisamment de moyens pour protéger tous les points sensibles. Et là, on demande aux gens de rester chez eux.
Ouais. Et celui qui refuse de partir, vous avez les moyens de le contraindre ou c'est lui qui décide ?
Ah, souvent, on les contraint, mais il y a des moments où on est tellement pris par le feu que la négociation n'est plus possible. Donc, suivant la vulnérabilité de la personne, on peut parfois l'emmener de force, mais il y a des moments où on peut pas aller au-delà et on laisse les gens sur place. Mmh. C'est assez exceptionnel.
Ouais. Une dernière question. Il a beaucoup plu cet hiver, donc la végétation est très présente. Et malheureusement, c'est ça aussi qui brûle. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses à brûler.
Oui. Et puis en plus, on a vu avec les tempêtes, hein, on a parfois des branches qui sont tombées. Alors la forêt de Fontainebleau semble bien entretenue. Par contre, on a pas mal de massifs en France où ce n'est pas le cas. Et donc, on a toute cette strate arbustive qui est en mauvais état, qui brûle bien et dans laquelle on a du mal à s'infiltrer. C'est comme des ronces. Donc faire rentrer des pompiers dans les ronces, c'est impossible.
Oui, les landes, c'était très mal entretenu, c'est ce qu'on avait dit.
À l'époque, les landes étaient mal entretenues et donc les pompiers, les pompiers avaient du mal à rentrer dans les massifs. Pour autant, ils avaient des voies d'accès et c'est ce qui fait peut-être défaut aujourd'hui à Fontainebleau, c'est que dans les Landes, il y a des grands chemins qui séparent les parcelles et au moins là, ça permet d'éviter la propagation d'une parcelle à l'autre. Là, ça semble vite se propager d'une parcelle à l'autre à Fontainebleau.
Merci mon colonel d'être venu, colonel Franck Maillard, pour nous raconter ce qui se passe en ce moment en région parisienne. C'est totalement inédit, des canadairs qui viennent prendre de l'eau sur la Seine, ça, on pouvait pas le penser. Malheureusement, c'est le monde actuel et ça va sans doute se reproduire dans les étés qui viennent. Enfin,
malheureusement, je pense.
On a changé d'époque, comme on dit. Merci en tout cas d'être venu face au GG. Dans un instant, Édouard Philippe veut transformer le maire en shérif. Oui, il veut donner plus de pouvoir, notamment du pouvoir judiciaire au maire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, est-ce qu'on va devoir mettre une étoile de shérif sur chaque maire de France ? À tout de suite sur RMC, RMC Story. Vous imaginez ?
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, notre avocat, avec Fatima Edbounois, avec Jean-Loup Bonamy, les profs philo et français.
Les profs dans la place.
Les profs sont là, ils sont dans la place. Les profs ont corrigé leur copie.
Et du CNAT, RPZ.
Oh non, c'est gênant, comme dirait les élèves.
Vous avez donné le bac et le brevet à tout le monde. Maintenant, vous êtes en vacances.
Je ne l'aurais pas donné à toi, en tout cas.
Ouais, ça, c'est sûr. Bon, vous savez qu'en ce moment, on est entré en campagne présidentielle. Donc, l'heure est aux propositions. Et Édouard Philippe vient d'en faire une assez étonnante. Il propose que les maires finalement deviennent des shérifs.
Je veux aussi donner aux maires un pouvoir de sanction pénale pour réprimer les infractions qui pourrissent la vie de millions de Français et que la justice n'a pas le temps de sanctionner. Je veux une justice qui s'exerce vite, avec des garanties, vite et bien pour les petites infractions. Une justice du bout de la rue, si vous me passez l'expression.
Waouh, c'est chaud à ce point-là de ne pas être un orateur.
Ah bon ?
Si tu compares par exemple sur les sujets de justice à il y a bientôt 20 ans, et il y a 19 ans, à Nicolas Sarkozy en 2007, tu compares Nicolas Sarkozy qui parle des, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, qui parle des problèmes de justice en 2007 à ce qu'on vient d'entendre Édouard Philippe, c'est chaud d'être candidat à la présidentielle et d'être un aussi mauvais orateur.
Néanmoins, il fait une proposition qui a le mérite d'exister et qui est plutôt grande gueule. Il veut donner des pouvoirs de sanction pénale au maire. une justice du bout de la rue en quelque sorte, puisqu'il dit en gros le maire est le mieux placé pour savoir ce qu'il faut faire, qui il faut punir. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors je voyais déjà des réactions en disant attention, imaginez que on donne ses pouvoirs dans les villes RN, catastrophe, donc la gauche est déjà vent debout. Mais est-ce que c'est une bonne idée, Charles Consigny?
Bah, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Il faut faire attention aussi au maire qui tout à coup va s'improviser arbitre de ce que chacun peut faire. Moi, dans mon petit village du Jura, par exemple, j'apprécie beaucoup notre maire. Néanmoins, ils ont installé des panneaux de sens interdit, sans queue ni tête, que j'enfreins à chacun de mes déplacements. Je n'aimerais pas que le maire puisse m'imposer une sanction pénale.
Bon. Ben, le maire, il peut déjà, a priori, il prend des arrêtés municipaux pour, par exemple, prévenir les troubles à l'ordre public. Il peut diriger une police municipale. D'ailleurs, la plupart maintenant des maires ont une police municipale. Il peut installer un système de vidéoproduction.
Non, mais en gros, ça vise les racailles.
Il peut régler la circulation et le stationnement. Est-ce qu'il faut en plus leur donner le pouvoir de donner des amendes ou des sanctions pénales à des délinquants
qui... Ça dépend pourquoi. Si c'est quelqu'un qui consomme de la drogue sur la voie publique, oui. Si c'est quelqu'un qui... Il faudrait savoir pour quelles infractions exactement. Si c'est juste du tapage nocturne, c'est pas très intéressant. En revanche, si c'est pour les caïras qui zonent et qui agressent leurs prochains, oui, je trouve que ça peut être une bonne idée pour... pallier à l'engorgement de la justice, parce que c'est ça le sujet, c'est que la justice n'a pas les moyens matériels, humains, de juger tout ce qui mériterait d'être sanctionné.
Cette délinquance du quotidien.
Et donc pour que les villes restent des villes où il fait bon vivre. Je sais pas si vous avez vu dans le même genre le maire de La Baule qui ne veut pas des trains pas cher, oui. Pour venir à la journée, parce qu'il défend un droit à la tranquillité.
Parce que ça amène une population qui n'a pas envie sur ses plages.
Ça va plaire aux politiquement corrects. Bon, s'il avait pu sanctionner au pénal les mecs qui se foutent sur la gueule sur la plage, qui se bousculent dans le train, etc., peut-être ça n'aurait pas été inutile. Bon, voilà.
A priori, le maire, l'avantage, c'est que c'est l'élu de proximité. Il sait précisément ce qui se passe dans sa ville.
Moi, je suis plutôt favorable à cette idée.
Jean-Loup Bonnavie.
Mais ça aurait mérité d'être un peu détaillé.
Faut-il faire du maire un shérif? Il faudra qu'Edouard Philippe vienne s'expliquer dans les grandes gueules sur cette proposition.
Ça me fait rire. C'est vraiment un peu les contradictions des GG, tu vois. C'est-à-dire que on est là en disant ah oui, c'est l'élu de terrain, de proximité. Mais en fait, il y a 15 jours, on faisait un autre sujet, d'ailleurs récurrent, sur il y a de plus en plus d'agressions contre les maires. Évidemment que si tu leur donnes de plus en plus de prérogatives, et notamment sur ces questions-là, évidemment, il va y avoir de plus en plus de violences et d'agressions contre les élus. Et d'ailleurs, les élus n'oseront rien faire, de peur de se faire planter. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça ne va servir à rien, ça ne va régler aucun problème. C'est juste l'État qui démissionne. Comme on est incapable, comme l'État est incapable de régler les problèmes, alors que quand même, c'est sa raison d'être et sa mission principale, il va se décharger sur les maires, se réfugier derrière les maires qui seront des shérifs mais sans revolver en fait, des shérifs impuissants. Et voilà, c'est tout. Et donc, ça va encore augmenter les tensions, ça va encore augmenter les violences contre des maires qui seront livrés à eux-mêmes. Et voilà, ça ne réglera pas le problème parce que tu n'agis pas sur les causes réelles de l'insécurité en France. Donc, tu livres juste les maires en peinture aux délinquants. Voilà, c'est tout.
Et tu crées. T'es contre.
Bien sûr, l'État va démissionner encore une fois, comme d'habitude.
Mais l'État n'est pas toujours très efficace en la matière.
On va créer une nouvelle féodalité. Et de toute façon, en fait, les maires n'auront pas les moyens. Alors oui, sur des petits tapages nocturnes, ils pourront faire des choses. Mais en fait, voilà, Charles parlait des caïras tout à l'heure. Les maires ne font pas le poids face aux caïras, c'est tout.
Fatima, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas la creuser, l'idée d'Edouard Philippe?
Moi, je trouve ça intéressant qu'il en parle. On a souvent dit que le maire était à portée de baffe. Vous savez, il y a cette expression-là.
Là, justement, c'est lui qui distribuera les baffes.
C'est ça, s'il est à portée de baffe, que lui et les moyens que les maires, avec leurs responsabilités, avec ce qu'on leur demande de faire, et aussi des moyens de se défendre, des moyens de répondre, des moyens d'aller un peu plus vite, pourquoi pas? Là où c'est très intéressant, c'est qu'on parle des incivilités. Derrière ce mot, je déteste ce mot, incivilité, mais derrière le mot incivilité, on a tout mis, on a même mis la délinquance derrière le gentil mot d'incivilité. C'est ce qui pourrit la vie, le quotidien des Français. Donc le terme de justice du bout de la rue, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. Mmh. Alors peut-être qu'il manque de charisme pour porter ça, mais ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. Moi, je ne l'ai pas trouvé forcément mauvais. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais.
Il est très dur, Jean-Louis. Il a la dent dure, Jean-Louis.
Oui, et puis en plus, au-delà de l'esbrouf, au-delà d'être un bon orateur, moi, ce que je veux, c'est du concret et des actions. Donc, qu'est-ce qu'il met derrière? Voilà, c'est un peu trop large. Donc, j'aimerais voir pourquoi ça se tente. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà.
Non, mais quand je vois Édouard Philippe en campagne, je comprends mieux pourquoi on dit Mélenchon, Le Pen, il est inévitable, quoi. Excuse-moi, ce qu'on vient de voir là. Il y a aucun charisme chez Édouard Philippe. Je le savais, mais là, je suis même surpris tellement ça dépasse.
Moi, j'aimerais beaucoup qu'on sorte du casting. C'est une élection présidentielle, c'est pas un casting. Donc effectivement, un moment, on va voir effectivement la façon, ce à quoi on ressemble, notre manière de parler a un impact, mais il y a aussi ce qu'on dit. Moi, je pense, j'aimerais, mais c'est vrai que les gens vont regarder.
Et Édouard, si tu cherches un conseiller en communication, là, c'est le moment. Appelle-moi. Bah,
moi,
je suis dispo.
Au-delà du problème
d'Édouard, si tu nous écoutes,
la proposition elle-même, elle est un peu différente.
Non, mais on
ne
veut pas quelque chose d'artificiel. Moi, je préfère quelqu'un d'authentique, avec des propositions et des actions, plutôt que quelqu'un qui va maîtriser la communication et à être.
On peut faire les deux.
On va écouter Pascal qui nous appelle de Lyon. Il est taxi. Salut, Pascal.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Que pensez-vous de la proposition d'Édouard Philippe qui propose en gros, alors c'est nous qui disons que les maires vont devenir des shérifs. Lui, il l'a pas dit dans sa voix, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on donnerait aux maires des pouvoirs de sanction pénale pour une justice, dit-il, du bout de la rue.
Déjà, il cherche surtout, bien sûr, à faire du buzz, vu qu'il rentre en campagne électorale. Mais aujourd'hui, les maires sont OPJ.
Oui.
Officiers de police.
Oui, ils sont déjà OPJ.
Et donc, ils ont déjà des pouvoirs de police et de sanction.
Ouais,
donc, je vois qu'est-ce qu'on peut leur
qu'est-ce
mettre, de
mettre
plus.
De plus, c'est ça.
Quand j'entends Charles Consigny qui dit « Ouais, mon maire, il a mis des sens interdits n'importe comment et j'enfreins la loi, je passe. » Si le maire se met devant sa voiture, il l'arrête et il le sanctionne déjà aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a de nouveau dans ce que... Après, il faut encore qu'il y ait je vais pas être poli, mais il faut encore trouver des maires ou des mairesses qui est des coronesses. Mais ça, malheureusement, c'est difficile.
Ah, Édouard Philippe lui-même est maire, donc.
Oui, j'attends qu'il descende dans la rue et qu'il fasse ce qu'il a à faire.
Bah. Non, mais moi, je pense que ce qu'on veut, c'est de l'action, dans le sens. Vous vous rappelez, on a reçu ici The King TV, ce jeune homme-là qui arrête les pickpockets dans le métro, qui les filme. De la même manière, on a sur Internet, je pense à quelqu'un comme The Fox, qui essaye de piéger des pédocriminels sur Internet. Moi, je pense vraiment qu'on en a ras-le-bol de l'impunité. Des choses qui se passent, ça se passe devant nous, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et ça devient vraiment insupportable. Et notamment, donc je parle de pédocriminalité ou de pickpocket, mais sur absolument tout, sur les incivilités, sur absolument tout, et le citoyen a juste envie qu'il se passe quelque chose, qu'on ait les moyens d'agir, et que si effectivement l'État, c'est trop long, c'est trop loin, et surtout on sait que si on laisse les choses s'envenimer, non seulement ça ne se répare pas, mais ça empire, c'est la théorie de la fenêtre cassée. Donc effectivement, tout ce qui va dans ce sens m'intéresse. Mais bon, si c'est des grandes annonces politiques, comme vous dites,
Pascal, il faut que les mesures soient précisées.
Il faut qu'ils soient précis quand ils nous proposent quelque chose.
Pascal,
on a perdu Pascal.
Non, il est là.
Non, je suis là.
On a perdu Édouard Philippe. Mais vous n'y croyez pas, vous, à cette proposition?
C'est pas que je n'y crois pas. Ça existe déjà. Donc c'est juste du buzz.
Non, mais il veut élargir les compétences.
Il veut mettre des choses en place.
Après, effectivement, il va falloir qu'il aille plus loin dans cette proposition.
Après, un petit maire d'une ville de 200 habitants avec déjà toutes les responsabilités, tout ce qu'il a à faire, déjà s'il fait un peu de PJ, c'est-à-dire qu'il essaye d'empêcher des gens de faire des bêtises à hauteur, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus aujourd'hui? Rien.
Oui, mais
c'est à l'État de faire son travail.
Oui, mais comme
l'État
ne le fait pas.
L'État se décharge.
Oui, mais pardon, mais vous êtes marrant, vous. Alors, en fait, c'est très français. C'est-à-dire qu'on veut que l'État règle tout. L'État, finalement, n'arrive pas à bien régler les choses. On l'a vu.
Et le maire, c'est l'État.
L'État. Moi, je pense que le maire, il est en proximité. Il connaît les gens. Il connaît sa ville. Il est souvent plus efficace. Et d'ailleurs, les gens font plus confiance au maire, qu'au préfet. Hein.
Et puis,
le maire, tu le connais. Le préfet, t'es incapable de donner son nom. Donc, le maire, c'est celui qui est là. Tu as voté pour lui déjà. Donc, il a un programme. Il va l'appliquer. Et dans ce programme, il peut effectivement axer son action sur la justice, sur l'ordre, la sécurité. Je comprends pas pourquoi cette défiance vis-à-vis du maire, qui est à mon avis plus efficace que l'État dans la délinquance du quotidien.
Et puis surtout, il y a la durée. Moi, là où je suis, comment dire. Je regardais tout à l'heure, le 14 juillet 2016, il y a eu les attentats à Nice.
Oui.
D'accord.
On commémore les 10 ans.
Ça fait 10 ans. D'accord. Oui. Eh bien, là, on est encore le procès, là. Et on a encore, il y a eu les deux procès pour terrorisme, mais on est encore sur le procès, sur les failles de sécurité. D'accord? Maintenant, 10 ans plus tard. Donc là, on n'est même plus dans de la lenteur, on est dans de l'extrême lenteur pour quelque chose qui était très grave. Et je me souviens très bien quand on en avait parlé, on avait dit, il faut que ça aille vite, il faut qu'on voit les responsabilités. 10 ans. Donc vous pensez bien que quand il nous arrive quelque chose dans un petit village, et si on veut que ça aille vite, l'État ne peut pas tout non plus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas une démission, mais c'est aussi délégué, parce qu'on est un petit peu coincé maintenant, là.
Merci, Pascal. Merci. Est-ce qu'on a une petite consultation sur le compte X des grandes gueules? Le maire doit-il devenir un shérif?
Mais la question posée,
qu'avez-vous répondu? Elle est très bien posée, cette question.
Non, mais shérif.
Bah oui, le shérif.
La métaphore.
Il doit mettre des Santiago et un chapeau.
La métaphore est tellement biaisée.
Étoiles. Et vous dites non à 53,6%, oui à 46,4%.
Les gens ne savent pas.
Donc il va falloir préciser cette mesure. Dans un instant, alors ça c'est formidable, dans la série Comment vous culpabilisez, les supermarchés U désormais mentionnent l'empreinte carbone de vos achats. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire vos courses dans le supermarché et à la fin, sur le ticket de caisse, vous avez précisément l'empreinte carbone de ce que vous venez d'acheter. Utile ou culpabilisant? Et est-ce que derrière, vous remettez des produits en rayon pour moins polluer? Bah oui,
on renonce.
Parce que sinon, quel intérêt? Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h43 et vous êtes bien sur RMC la radio, sur RMC Story la télé, c'est les vacances, c'est l'été. Mais nous on est là pour ce week-end férié du 14 juillet, ce pont, le jour où Charles Consigny sera président de la République, il supprimera les ponts, donc profitez-en.
Et d'ailleurs, si
il aura une loi anti-pont, il nous l'a dit.
Ça sera compliqué pour circuler.
Et Charles Consigny, si tu comptes te présenter, il faut le faire vite parce que sinon c'est pas juste pour le temps de parole. Parce que sinon, là, t'as un temps de parole gratuit comme
non,
ça.
Non, mais il profite du temps de parole qu'on lui offre. Les
non, mais tu sais, je suis comme Glucksmann, je me donne 3 mois.
Voilà.
C'est ça.
Et c'est ça, tu te donnes quand? Mais tu sais qu'il faut le faire avant avril quand même.
Sinon, non, je me déclarerai avant Noël.
Avant Noël.
Comme ça, les gens parlent pendant leurs vacances
autour
de Noël.
De la dinde.
Autour de la dinde.
T'as vu, Charles est candidat, il veut supprimer les ponts. Jamais je voterai pour lui.
Non, non, j'aurais des très bonnes propositions. Je sortirai un livre avant Noël, comme ça, les gens se l'offriront.
Bien sûr.
Et ce sera le sujet de débat dans les foyers.
Et tu viendras en parler dans les grandes gueules de ce... Bon. En attendant... vous savez que le système U, coopérative U précisément, les supermarchés, vont généraliser ce qu'on appelle le ticket carbone. Donc tu fais tes courses et tu as un ticket de caisse classique et à côté tu as un ticket carbone. On dit précisément combien tu as dépensé en carbone, ton empreinte carbone de tes achats. Est-ce que c'est culpabilisant ou est-ce que c'est une bonne idée? On en parle avec vous au 32-16. Les clients des 1900 supermarchés coopératives U vont donc bientôt recevoir un ticket carbone sur lequel sera détaillé le coût carbone de chaque produit acheté. Et bien sûr, des recommandations pour la prochaine fois que tu fais tes courses, eh ben, tu dépenses moins pour l'impact pour ton environnement. Fatima, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas, par exemple, quand tu iras faire tes courses, tu te dis, ça serait bien d'avoir ce ticket, comme ça, peut-être que j'achèterai pas tel ou tel produit? Alors, ou est-ce que tu en as marre d'être culpabilisé à longueur de journée?
Je vais vous parler très franchement.
Oui.
Si là, j'étais dans ma voiture en train de vous écouter, et si vous parlez, si tu avais annoncé ce sujet,
tourne le bouton,
j'aurais écouté rire et chanson. Non, écoutez, c'est pas possible ce genre de proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, d'une part, les tickets, je vous rappelle que depuis tout un moment, on ne donne plus le ticket.
Non, c'est dématérialisé.
On nous propose de le dématérialiser, de l'envoyer par mail. Déjà.
C'est très polluant en fait, parce que stocker un mail est hyper polluant.
Donc tu reçois par mail un truc pour te dire attention, t'as pollué, mais on te l'a envoyé par mail. Déjà, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on donne ton ticket en disant oh, tu as pollué, vraiment pollué. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu renonces à tes courses, tu repars, tu pleures, Tu fais une crise d'éco-anxiété sur place. Mon Dieu, éco-anxiété. Non,
fois que tu iras faire tes courses, tu feras attention.
On a un gros problème. Parce que, à la limite, ça va rendre conscients les gens déjà conscients. Donc, qui vont devenir tellement conscients que ce sera trop. Et ceux qui n'en ont absolument rien à faire, ce n'est pas ça qui va les faire changer d'avis.
Alors,
donc,
ce décompte...
on va dans une société ultra polarisée où les gens merveilleux sont encore plus merveilleux. Et les autres sont de pire en pire. Donc moi,
alors ça existe déjà depuis 2023 chez Carrefour.
Hein. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Tu manges 5 fruits et légumes par jour quand il y a écrit manger 5 fruits et légumes.
Alors personne donc là, ne mange 5 fruits et légumes par
voilà,
jour.
Voilà, donc on t'a répété manger 5 fruits et légumes par jour.
Ah bah oui, je mange différent.
C'est-à-dire différent.
Tu manges.
Qu'est-ce que t'entends par différent?
Vas-y, qu'est-ce que tu manges?
Bah oui, je mange 5 fruits et légumes par jour.
Ah bon?
Ah oui.
Non mais c'est pas grâce au slogan,
mais oui, je pense que
les gens qui font attention à leur
désolé Olivier de prendre soin de ma ligne.
Moi ce que je dis c'est que les gens qui font attention à leur empreinte carbone n'ont pas attendu ce ticket.
Alors,
et ceux qui ne font pas attention ne vont pas changer d'avis grâce à ce ticket. Voilà. Et sinon moi de toute façon, j'aurais pas
participé
au débat dans ma voiture.
Quelqu'un qui voulait pas parler du sujet, qu'est-ce qu'elle parle?
Moi j'aurais changé.
Je cherche l'alerte tunnel, je l'ai plus. Bon, de 2023, les clients de Carrefour qui réalisent leurs courses peuvent également avoir un ticket carbone. Alors, ce qu'on dit chez les supermarchés U, ce décompte est assorti de recommandations.
Ah.
Mais bien sûr, ce n'est pas des injonctions.
Ah ben.
Mais on vous recommande de diversifier les protéines, de privilégier plutôt les végétales, ou encore de vous orienter vers des produits de saison, d'origine France. Voilà, c'est ça, c'est des conseils pratiques. Jean-Loup, est-ce que c'est une bonne idée?
Bah, en fait, je vois pas trop l'impact concret que ça va avoir, parce que j'imagine mal... déjà, en plus, l'impact carbone, c'est-à-dire que t'as le ticket, t'as déjà fait tes achats. Donc, tu peux plus revenir en arrière.
Non.
Tu peux pas reposer le paquet.
C'est pour la prochaine fois.
Mais c'est complètement,
Tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir.
Tu as gamberger.
J'aurais pas dû acheter, clémentines en provenance du Pérou, par exemple.
Oui, mais moi, je comprends pas pourquoi. Mais alors, au lieu de faire reposer ça sur le consommateur, je comprends pas pourquoi il est légal, de vendre des clémentines qui viennent du Pérou, tu vois. Alors que c'est un fiasco écologique.
Tu devrais donc interdire.
Et bah pourquoi pas. Ou en tout cas, moi ce que je propose, c'est que il faut mettre justement une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur les produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont un fiasco écologique. Et pour favoriser la production locale, faut mettre des taxes protectionnistes et droits de douane qui favorisent la protection locale et qui défavorisent la concurrence extérieure.
Charles, quand tu fais tes courses, est-ce que tu penses à ton empreinte carbone?
Non,
est-ce que tu fais attention?
Pas du tout, mais
non,
parce
jamais.
Que je n'achète pas effectivement des produits qui viennent de l'autre bout du monde.
Non, mais... Tu fais attention quand les fruits et légumes, tu regardes la provenance.
Bah,
les fruits de saison.
En général, j'achète des fruits et légumes français.
De saison, non?
De saison, tout à fait. Mais de toute façon, je mange toujours la même chose. Donc,
c'est-à-dire?
Bah, je me nourris quasi exclusivement de tomates mozzarella.
Et de graines.
Oui, mais attention, parce que les tomates, l'hiver, elles viennent d'où?
Non, mais françaises. Non, mais je te parle en saison.
Ah, en saison, d'accord.
L'hiver,
en responsabilité.
L'hiver, je ne mange que des pâtes carbonara.
D'accord.
Ça fait deux plats.
Pâtes carbonara l'hiver et tomates mozzarella l'été. Et c'est pas lassant de manger toujours la même chose?
Non, parce qu'une bonne mozzarella, c'est toujours une bonne surprise. En tout cas, je suis d'accord avec Jean-Loup. Je pense que toutes ces mesures sont dérisoires et que si on veut vraiment prendre des mesures pour essayer de sauver cette planète, ou en tout cas la vie humaine sur cette planète, il faut prendre des vraies mesures. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vois toutes les connes qui se font des avocats d'autotoast alors que les avocats viennent de l'autre bout du monde et qui en même temps font chier tout le monde avec l'écologie, oui, il y a une contradiction, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, effectivement, on est maintenant à une ère un peu différente et je pense qu'on doit protéger nos marchés de produits qui ne respectent pas les normes qu'on entend appliquer, aussi bien sanitaires que sociales ou écologiques. Je pense qu'il faut aller... Moi, j'ai beau être libéral, je pense que c'est pas du tout une hérésie parce que on voit bien qu'il y a quand même certains principes de base. J'ai parlé plusieurs fois de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Oui, moi, quand je vois de l'agneau néo-zélandais dans les magasins jurassiens, si tu veux, je trouve ça débile.
C'est un crime contre le bon sens.
Le traité du Mercosur est évidemment une connerie. Enfin, je veux dire, on est quand même maintenant dans une époque un peu différente où les vêtements chinois, par exemple, on aimerait bien quand même que ce soit pas fait n'importe comment. Et si c'est vraiment fait n'importe comment,
eh ben tant pis, on ne les importe pas. Je vois pas le problème de légiférer là-dessus.
Parce que Charles, qui est un bien meilleur économiste que Sandrine Rousseau, vient de résumer quelque chose de très important. On peut être à la fois libéral et protectionniste. Libéral sur le marché intérieur
libéralisme,
français.
Libéralisme,
bon, exactement. Et protectionniste, c'est-à-dire que ton marché qui est libre à l'intérieur, tu le protèges contre une concurrence déloyale. Alors, qui vient de l'extérieur.
Je voudrais qu'on donne la parole à Hervé de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour monsieur Hervé.
Bonjour les grandes gueules.
Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, est-ce que vous avez besoin de ce ticket U carbone pour essayer de mieux orienter vos achats?
Alors, pas du tout. Déjà, je trouve que c'est une vaste fumisterie. Moi, ce que je demande, c'est pourquoi Super U importe des produits qui sont très forts en taux de carbone, en consommation carbone. Je vois pas l'intérêt. Hein. Et pourquoi
c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire que le supermarché met dans ses rayons des produits polluants.
Et après, dit oh là là, c'est mal.
Et si vous les achetez, ils disent ah maintenant il fallait pas le faire. C'est pas faux. Vu comme ça, c'est vrai que c'est absurde.
C'est vrai que c'est pas dû acheter les produits que je veux.
Après, c'est la liberté du commerce aussi, la liberté de.
Plus propre que nous, c'est eux qui nous amènent la consommation.
C'est pas faux.
Si on consomme, c'est bien eux qui nous le
donnent. Il y a certains produits aujourd'hui, si on les achète pas venant de l'étranger, par exemple pour s'habiller, aujourd'hui c'est compliqué de s'habiller uniquement français.
C'est pas cher.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de droit de douane pour protéger le marché français.
Mais disons que les habits, c'est pas indispensable autant que la nourriture.
Non, bien sûr. Mais par exemple, vous faites attention, vous, les produits de saison, plutôt les fruits et légumes? Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, je fais, hélas, en fonction de mon budget.
D'accord.
C'est pas du tout
donc
en fonction de...
Donc c'est le portefeuille qui...
C'est ça. C'est pas du tout... C'est-à-dire que même si les petits prix sont mauvais en taxe carbone, bah hélas, je suis obligé de les consommer aussi.
Bah oui, bien sûr. Merci Hervé. Bah oui, c'est le portefeuille qui compte aussi quand même.
Et pas est-ce que tu te souviens d'achat pulvérisé?
Ouais, un dernier mot.
Vas-y. Est-ce que tu te souviens du sketch de Groland sur consommer 5 fruits et légumes par jour?
Non.
Donc fallait consommer de la pomme, de la poire, du cassis, du raisin, beaucoup de raisin, et je sais plus ce qu'était le cinquième. Mais oui, sous forme uniquement d'alcool. C'était bien. Consommer ces 5 fruits et légumes par jour, mais uniquement sous
alors,
forme.
Alors, est-ce qu'on a fait une petite consultation ou pas là-dessus? Oui ou non? Voilà, bien sûr. Est-ce que c'est utile ou culpabilisant ces tickets carbone? Vous dites culpabilisant à 72,8%. Vous n'en voulez pas et 27% utile. Oui, bah quand même.
Oui, mais en vrai, quand ils seront dans le supermarché,
d'accueillir Estelle Denis maintenant qui nous rejoint, que vous allez écouter sur RMC.
Il est temps que cette émission s'arrête.
T'as mis une marinière en hommage à Arnaud Montebourg.
Non, j'ai mis une marinière parce que j'en ai depuis 40 ans. J'ai pas attendu Arnaud Montebourg pour être une marinière, tout de même.
C'est son côté bretonne.
Bien
alors,
sûr.
De quoi va-t-on parler?
Eh bien, nous allons parler des incendies à 60 km de Paris. 37 départements en vigilance rouge aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation? Vous nous appelez 3216 pour réagir. On va parler de Tadej Pogacar, le quadruple vainqueur du Tour de France. Eh bien, il souhaiterait qu'on envisage de faire démarrer les étapes du Tour de France à 8h du matin.
Mais oui.
À cause de la chaleur. Aujourd'hui, ça démarre entre 13h et 14h, les heures les plus chaudes de la journée.
C'est pour la télé?
C'est pour la télévision.
Bah bien, voilà.
Et on va pas faire la sieste à 10h
France
du matin.
France Télé assassine.
Non, mais oui, mais en même temps, après, pourquoi est-ce que c'est de la couverture aussi belle sur France Télévision? Parce que ça ramène beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de téléspectateurs. Et si ça démarrait à 8h du matin, il y aurait moins de téléspectateurs. Et peut-être que la couverture serait.
Ça serait pas une bonne idée.
Serait
pour
moins
nous,
belle.
D'ailleurs.
On va parler à 13h30 de cette polémique sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a fait plus de 2 500 000 vues. C'est un jeune chômeur dans le secteur de la restauration qui a déploré ne pas pouvoir partir en vacances. Est-ce que vous trouvez ça triste pour lui ou est-ce qu'au contraire, ça vous choque qu'on puisse se plaindre quand on est chômeur de ne pas partir en vacances? 32-16, 13h30.
On a le droit, je crois, quand on est au chômage, on a le droit à des vacances.
On a le droit, exactement, au même titre qu'un salarié. En fait, c'est tout à fait légal, mais il y a eu beaucoup de commentaires négatifs après cette vidéo. Et puis enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette image d'un Américain qui se fait encorner par un bison à Yellowstone. On va se demander s'il faut en finir avec le tourisme animalier.
Attention bison et retour des grandes gueules demain à 9h sur RMC Story. Bon après-midi.
Vous attendez.